À l'occasion du salon d'édition indépendante Offprint 2023, DU réalise une série d'entretiens autour de l'édition contemporaine en partenariat avec le CNAP, Centre National des Arts Plastiques. Mélanie Blaison, Martha Salim Beni et Sabrina Soyer de How to Become, dont le cinquième numéro a paru en septembre dernier. Bonjour Sabrina, Mélanie et Martha.
Salut. Bonjour. Victoire.
Vous allez bien ?
Ça va, ouais.
Après des journées un peu différentes, mais difficiles. Ok. Alors avant de parler de ce dernier numéro, le cinquième qui a paru en septembre 2023, est-ce qu'on peut revenir au début du projet How to Become, qui démarre, il me semble, lors d'un workshop donc au centre à Trégnac ?
C'est ça, à Trégnac Project, ou Trégnac Projet, donc c'est dans le Limousin, pas très loin du plateau des Mille Vaches, un endroit qui est géré par Sam Bazou et Élise Muret, et qui est donc un centre d'art, mais aussi de recherche qui accueille essentiellement maintenant des collectifs pour les résidences, voilà.
Et ce numéro, il est numéroté 0 d'ailleurs. Enfin, parce que comme on va parler des différentes revues, peut-être, là on est au cinquième, mais en réalité la sixième publication. Qu'est-ce que ça voulait dire du coup ce numéro 0 ? C'était une introduction à ou...
Ben, c'était bizarre, je crois que je ne savais pas trop au début, parce que c'est moi qui ai initié ce projet. J'ai dit, allez, venez, on fait une revue, mais je ne savais pas trop. J'ai appelé l'objet comme ça, et en plus, je trouve que ça ressemble de moins en moins à des revues, de plus en plus à des publications collectives, mais il y a une temporalité, à peu près une fois par an. Et donc, en fait, oui, c'est le numéro zéro, parce que je ne savais pas quelle allait être la suite du projet.
Et puis, toutes les revues sont réalisées plutôt dans le cadre de workshops, enfin d'ateliers, en tout cas, qui sont soit dans des écoles, soit qui sont à votre initiative. Toutes les revues commencent par How to Become, les workshops aussi. Donc, c'était quoi le premier titre, donc How to Become Lesbian, et après
How to Become a Lesbian, c'est une phrase de Eileen Miles qui était un peu le point de départ de ce numéro zéro, notamment une traduction que j'ai faite avec Émilie Noteris de l'anglais au français d'un texte de Eileen Miles, donc qui parlait de sa carrière de poète quand elle est arrivée à New York, et aussi de comment elle est devenue en même temps poète et lesbienne. Au même moment, elle a fait son coming out, où elle a fait aussi son coming out en tant que poète.
Pour parler après du sixième numéro de la revue, est-ce qu'on peut décrire l'esthétique et puis le format de la première revue, son image de couverture?
Je sais pas, Mélanie, tu veux décrire la couverture peut-être?
La couverture, oui, je vais la décrire, mais j'étais pas là, moi, au zéro.
C'est Blanche Denarnaud qui l'a fait, en tout cas.
Ah, ok, voilà. D'accord. Alors, on a un chandelier avec des bougies fondues, de la cire qui dégouline, un cubit de vin, enfin une femme qui tient un cubit de vin et un dans sa main droite, et de l'autre un bougeoir avec des bougies à moitié brûlées, et elle a un casque de moto et une jupe et des nu-pieds.
Voilà, une jupe arc-en-ciel et des méduses avec des paillettes.
Ah ouais, mais c'est sombre, je vois pas là. En quatrième de couve, on dirait qu'il y a de la buée. Ah, et en quatrième de couve, alors, c'est
Romy Schneider.
Ouais. Ah oui.
Et je me rappelle plus du nom de cette actrice, c'est Machen in Uniform.
Qu'est-ce qui se passait en fait au début de la revue ? Donc c'est plutôt ça réunit un groupe autour d'un mouvement qui est plutôt féministe, en tout cas d'engagement féministe. Donc c'était quoi les initiatives au départ ?
En fait, le projet au départ, disons que How to Become était une composante de The Cheapest University, où en fait moi j'avais proposé des workshops d'écriture pour des personnes qui étaient qui venaient de l'art et qui avaient envie de tester des formes expérimentales de l'écriture, et surtout d'écrire à propos des subjectivités lesbiennes, en fait, quoi, en littérature. Et mais c'est parce que à l'intérieur du groupe, déjà, de The Cheapest University, il me semble qu'il y avait déjà des pratiques d'écriture qui n'étaient pas dans l'idée de faire des livres, en fait. Il y avait des formats qui était différent de ce qu'on peut voir dans la littérature qui est publiée dans des livres.
Du coup, toutes les deux, Martha et Mélanie, vous rejoignez le projet, le collectif, à partir de quand? Il me semble que Martha, c'est à partir du workshop aux Beaux-Arts de Bordeaux.
Oui, c'est ça.
C'est ça, pendant justement How to Become Irrésistible. Et Mélanie, tu rejoins le projet quand?
Au numéro 1.
Au numéro 1, le numéro 1 qui a suivi le numéro 0.
Oui, voilà, c'est ça. Au cas où tu tombes dans le cadre d'un workshop T-Bust et How to Become.
Ok.
Ouais, voilà.
Et c'était lequel, How to Become?
How to Become a Body Double.
Ok.
Où on a pas mal parlé du travail de New Narratives et aussi de Lisa Robertson cette année-là. Et donc, à l'intérieur de celui-là, souvent, c'est vrai que le point de départ, c'est des traductions aussi des textes qu'on regarde en commun et que moi, ou en association avec d'autres personnes, dans celui-là, avec Mélanie, on a traduit ensemble un texte de Cathy Hacker et d'autres auteuristes qui ne sont pas présentes ce soir. Mais oui, c'est souvent les points de départ, en fait, pour créer une espèce d'ambiance de recherche et de partage, en fait, autour de l'écriture, de questions de vocabulaire. Voilà.
Oui, puis la traduction, en plus, ça fait. Enfin, il y a toujours. On essaie d'être le plus neutre possible, mais il y a toujours un biais par lequel on aborde les textes et qui, en fait, sont malgré nous. On est traversé aussi par une histoire qu'on met à l'intérieur aussi de ces traductions. Donc, justement, comment vous abordez ça, ce travail de traduction? Parce qu'il y en a dans tous les numéros. Dans tous les numéros, il y a des textes traduits et qui ont du coup jamais été traduits de l'anglais au français. Donc, c'est aussi pour les rendre publics, c'est aussi pour les rendre plus accessibles, peut-être, à un plus grand nombre de lecteurs, lectrices.
Il y a un peu ça, mais c'était pas non plus une mission, parce que je pense qu'on n'a jamais pensé que la position de la traductrice était neutre. Voilà. Je pense que aussi le niveau d'anglais des personnes dans le groupe faisait que on n'aurait pas pu postuler à cette attitude-là ou à cette qualité-là de neutralité, et que vraiment la transparence de la traduction, c'était pas l'angle. Je pense que c'était plutôt la poésie de la traduction, le côté vulgaire de la traduction, de comment on fabrique un sens en commun, justement, et pas en essayant d'être fidèle à ce que serait la langue d'origine, en fait, entre guillemets.
Et la question du collectif, elle est très présente, quoi. Elle imprègne vraiment la revue. On se disait hier, quand on discutait, que les personnes sont réunies à l'intérieur de la revue, soit parce que quelqu'un va parler du travail d'une personne que vous allez contacter après, soit d'artistes qui vous contactent directement pour être publiés dans la revue. Donc, comment ça se passe? Est-ce que ça s'est passé dès le départ comme ça, ou au départ, vous étiez plutôt, vous alliez chercher des contributeurs, des contributrices à la revue?
Les gens peuvent arriver parce qu'il y a une adresse mail, en fait, dans la revue où tu peux écrire si tu feuillettes ta revue. Tu peux écrire pour venir participer. Voilà. Et il y a plusieurs cas de figure. Il y a aussi le cas de gens qu'on contacte par rapport à des choses sur lesquelles on rebondit en discussion, en réunion, en workshop. Voilà. Et oui, c'est souvent ça.
Oui, c'est les gens, les personnes, en fait, prennent contact avec nous parce qu'elles sont intéressées par les ateliers. Et du coup, il n'y a pas ce truc de publier des auteuristes qui seraient extérieurs. Où on aurait aussi, par exemple, l'économie qui nous permettrait de faire ça. En gros, de diffuser des gens dont on considère que le travail est important. Jusqu'à présent, les personnes qui participaient au workshop, il n'y a jamais eu de sélection, par exemple. Toutes les personnes qui avaient envie de publier quelque chose, tout le monde a toujours dit oui. Il se trouve que personne n'a proposé de texte qui était problématique. Et qui sortait complètement comme ça de façon de travailler, de valeurs qu'on pourrait avoir. Il n'y a jamais eu ce problème-là. Mais voilà, c'est le contexte de recherche fait que on choisissait de tout publier, en fait.
Et dans les contributeurs, contributrices, justement, il y a le contenu, quoi, et puis la mise en forme. Donc à chaque fois, Martha, t'as pris du coup en charge la conception graphique des deux derniers numéros. On va en parler un petit peu après. Et à chaque fois, comment ça se passe justement sur la mise en forme? Est-ce que vous avez une idée, du coup vous contactez un designer graphique, ou là, dans le cadre d'une rencontre, lors d'un workshop, la collaboration... Né, quoi.
Bah, avec Martha, en fait, au début, il n'y avait pas de designer graphique. Maxime Bichon, qui était quand même à Chippos University, est graphiste, donc avait quelques notions et filait un coup de main vers la fin. Et puis, on faisait tout. Moi, j'initiais le chemin de fer et après, on arrivait, on se mettait autour d'une table. Et puis, ah oui, ça, ce serait mieux là. C'est vraiment avec les auteuristes. Tout le monde fait un peu tout, en fait, dans ce collectif. Elle intervient à plein de niveaux en fonction de sa disponibilité aussi. À un moment, on est toutes bénévoles. Mais effectivement, à un moment, travailler avec quelqu'un, c'est aussi, en fait, la contribution graphique, c'est une contributrice. Martha est une contributrice. On en a parlé un petit peu hier par rapport au dernier numéro. Elle a designé une typo. Il y a des dessins à l'intérieur.
Mais justement, tu disais, Martha, que c'était un travail qui était un petit peu différent d'une commande et par le contexte économique et par le sujet qui t'imprègne aussi. Qui te représente. Donc, est-ce que tu veux nous parler aussi de ce travail-là, d'un point de vue du designer graphique qui travaille dans un contexte particulier de création?
Ouais, c'est vrai que moi, dans ma pratique de designer graphique, je fais surtout des livres, je fais pour l'art contemporain, donc des catalogues et des monographies, etc., où je bosse pour des institutions artistiques. C'est quelque chose qui, en tous les cas, me passionne, mais là, il y avait effectivement, il y a un investissement supplémentaire qui s'est opéré avec la revue How to Become dès le dernier numéro, et c'était deux boulots très différents. Le numéro d'avant à Bordeaux, où là, on a travaillé avec des étudiantes, principalement étudiantes, donc c'était assez cool d'avoir des jeunes autrices. Et c'était surtout avec Sabrina aussi que je travaillais, et Marie, donc à Bordeaux, qui était l'enseignante qui encadrait ce travail. Donc là, et l'investissement était encore différent pour ce numéro-là, parce que là, en fait, il y avait un double, je regarde ce cœur sur le dos, il n'est pas là pour rien. c'est ce qu'on se dit beaucoup, qu'on met beaucoup de cœur aussi dans ce projet-là, et dans How to Become, dans un premier temps, ça parle de quand même de relations dyke et queer, et donc chose qui est quand même rarissime. Même dans une librairie queer, on n'a pas des milliers d'ouvrages qui nous permettent un peu de fantasmer nos vies ou de retrouver nos vies, de se sentir représentées. Et il y avait les vampires, où ça, comme je vous disais hier, j'ai peut-être fait un coming out de gothique hier, je m'en rends pas compte. Je sais pas si vous saviez, je crois que je vous l'ai dit. Mais oui, c'est vraiment en tout cas une culture, et même en termes d'esthétique, entre guillemets, mais voilà, tout un paysage iconographique et culturel et littéraire qui m'intéresse beaucoup. Là, j'avais un peu une double love dans ce numéro, et donc un investissement qui était en conséquence. Et c'est vrai que c'était pas, ça m'a jamais été demandé. Précisément de me dire, tu peux nous faire une typo pour les titres ou tu peux nous faire des dessins. C'est quelque chose que j'ai amené, que j'ai senti que c'était aussi un espace où je pouvais le proposer. Et j'en avais très envie, tout simplement.
Et donc, tu es partie de quoi pour ce dessin de caractère qui est sur la couverture et la typographie de titrage
C'est intéressant qu'on en parle, parce qu'on en a beaucoup parlé entre nous de tout ce qu'on appelle les queer codes. Moi, j'appelle ça l'identité visuelle queer, et pour moi, c'est péjoratif plutôt, parce que c'est saoulant d'avoir toujours cette même esthétique pour le queer, parce que ça enclave d'autant plus, comme si ça l'était pas suffisamment. Et je pense que on n'est pas obligé de mettre du rose fluo et des paillettes pour qu'on identifie un contenu queer. Et je pense que c'est pas aussi très subtil, forcément. Enfin, je pense qu'il y a que des hétéros pour faire ça, d'ailleurs. C'est pas très subtil, forcément, d'annoncer de cette manière-là. Enfin, je pense que là, en termes de contenu, je pense que c'est les choses qui sont écrites dans le livre qui vont nous amener. Enfin, voilà, ce contenu qu'on peut rechercher, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc, du coup, pour revenir à la typo, c'est vrai que je pense que dans l'imaginaire collectif, on va tout de suite imaginer une typo, une fracture ou une typo gothique. Quand on parle de vampires et de Gwyn d'Arc, et même Gwyn, on peut imaginer une typo gothique d'ailleurs. Et voilà, j'avais très envie de pas être là où on nous attend, parce que je pense que la queerness a aussi le droit de créer des nouveaux chemins. Voilà.
Et donc, pour les auditeurs, enfin, auditrices, est-ce que tu peux décrire formellement
oui,
cette typographie?
Oui, alors attends, je vais me la mettre sous les yeux, mais c'est vrai que j'avais essayé de le faire, j'ai eu l'occasion d'en parler à l'oral aussi, pareil, avec un micro un peu impressionnant, il n'y a pas très longtemps. Et j'avais dit que c'était bubble queer qui pique, je crois, le terme que... Voilà, et aussi, bah, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a des... Là, comme elle avait un usage spécifique, cette typo, qu'elle sert pour cet ouvrage et avec ses sujets spécifiques et ce contenu-là, il faut qu'il y ait des mots qu'elle écrive très bien. Donc forcément, il faut qu'elle écrive bien lesbienne, dark, gwyn. Donc j'ai mis beaucoup de soins au L, au G, au K, au R. Enfin voilà, il y a des lettres aussi pour les vos noms de famille. Enfin, vu quand même, ils sont écrits en très gros, leurs noms de famille, parce que voilà. Donc j'aimais bien aussi quand je testais la typo comme ça aussi, en écrivant leur nom. Voilà.
Donc ce dernier numéro, How to Become the Daughter of Darkness, elle commence sur la Shosha, donc c'est une figure de la communauté lesbienne et féministe des années 90-2000 et de la scène de la nuit parisienne. Elle est à l'origine, par exemple, des Ladies Backroom et de la programmation de nombreuses DJ lesbiennes et queer qu'elle a fait émerger. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de cette figure majeure du clubbing parisien?
Bah, en fait, moi, je suis tombée par hasard sur un de ses films. Qu'est-ce que c'était déjà ce film ? Who's Afraid of Vagina Wolf ? Voilà. Et en fait, on en parle avec une pote. Elle me dit, mais cette nana, elle est à Paris et tout ça. Et je dis, ah bon, mais c'est qui ? Elle me dit, mais tu la connais pas, c'est la Shosha. C'est une légende, elle a fait plein de soirées, machin et tout ça. Donc là, je commence à faire mes recherches sur Internet et tout. Et en fait, je la contacte. Je la contacte en lui disant ce qu'on est en train de faire et que je vois un de ses films aussi, un documentaire qui se passe à Palm Springs, il me semble, aux États-Unis, où en fait, elle suit pendant deux jours une espèce de célébration dans un hôtel avec des piscines partout et des événements autour de la queeritude, quoi, où, qui sont 100% lesbiens, lesbiennes et trans. Et en fait, il y a la question du sexe qui est centrale dans ces documentaires. Et je me dis, ça pourrait être quelqu'un d'intéressant de rencontrer. Je la rencontre. Et là, elle me parle, elle me répond et elle me dit, oui, rencontrons-nous. Et là, elle me parle, mais ensuite elle nous parle, parce qu'on l'a aussi rencontrée avec Martha, de ses archives et commence à nous présenter toutes les archives sur les Ladies Room et les Ladies Backroom, en effet, qui étaient... En fait, une partie des Ladies' Room, pour elle, ce qui était hyper important, c'était la socialité, en fait, entre, des femmes, pour la plupart, en fait, qui avaient peu de lieux pour se réunir et parler de la culture de la musique, de la culture littéraire, de la culture cinématographique et de la house music à cette époque, qui était vraiment en train d'émerger... Voilà, ouais, dans ces soirées-là, quoi.
Et qu'est-ce que... Donc, c'est la première page, quoi. Enfin, un peu l'histoire de la Shosha. Donc, il donne aussi le ton de la revue. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres contributeurs, contributrices dont vous faites partie aussi? Vous êtes autrice de la revue.
En fait, ça donne le ton parce que on va dire qu'un des fils de la revue, c'était vraiment les espaces. Est-ce qu'il existe une géographie et une histoire des espaces de cruising pour les lesbiennes et pour les trans? Au début, c'était en France, à Paris et puis dans d'autres villes, à Marseille aussi, parce qu'on avait des échos de personnes qui étaient en train de faire des recherches par rapport à ça. Et donc la Shosha est venue donner le ton par rapport à ça, mais il y a plein d'autres ces archives, plein d'autres archives qui sont nos propres archives, qui viennent de nos propres recherches par rapport à l'histoire de lieux qui étaient des lieux où on allait pour potentiellement baiser, voilà, en tant que femme.
Et est-ce que vous écrivez pour la revue ou est-ce que vous publiez un texte dans la revue qui a été écrit peut-être il y a un an, deux ans, dix ans, et qui fait sens aujourd'hui avec le sujet de la revue?
Ah, c'est une bonne question. Mais tu veux répondre en premier, Mélanie, vas-y.
Oui. Ouais. Non, en général, comme on... comme on se voit quand même quelques fois dans l'année. En général, c'est des réponses à des discussions plutôt... Oui, par rapport à ces échanges de documents, de textes. Donc en général, c'est plutôt écrit dans... ça infuse un peu l'écriture et ça dirige... ça infuse, quoi, plutôt.
Et est-ce que... l'une d'entre vous veut commencer peut-être un moment de lecture. Est-ce que tu veux, Mélanie,
Tu sais pas ? Toi, t'avais déjà le texte pour introduire ça.
Le texte
de Félix ?
Ouais, je pense qu'il est bien. Parce que c'est aussi une personne qui a... Félix Casitani, qui a participé, en fait, à ces soirées. Et nous, on est un tout petit peu plus jeunes. Enfin, ou alors, on n'était pas à Paris à ce moment-là. Et donc, du coup, je trouve qu'il est bien, en fait, pour introduire, en fait, ce numéro. Alors, les lesbiennes parisiennes ne sont pas particulièrement à l'aise avec le sexe en public. Considérons que le sexe en public commence avec ce genre de grosse pelle adolescente un peu gênante pour celles qui y assistent sans participer. Pas non plus particulièrement à l'aise avec l'idée de passer officiellement pour une fille qui ne dit pas non. Les personnes assignées filles à la naissance sont socialisées de manière à ce que leur sexualité soit strictement privée, domestique, sous contrôle et dirigée vers un seul objet, le futur père de leurs enfants. A contrario, les mecs utilisent le sexe comme un moyen de socialisation entre eux. Ça commence bien avant les conversations graveleuses sur les filles qu'ils baisent réellement ou dans leurs rêves, et les moves de drague en bande. Ça commence dans les buissons, dans les toilettes et les vestiaires. Ça continue sur les canapés à regarder du porno à plusieurs et ça finit de temps en temps en se branlant entre potes. Mais entre potes, hein. Une bite, c'est déjà un sujet de conversation, et parler de sa bite, c'est déjà parler. En vérité, l'homoérotisme est une composante à part entière de la sociabilité masculine. Le tout, c'est de ne jamais devenir sentimental. Sinon, c'est que tu es un sale pédé.
Merci pour cette lecture. Ce texte, quand je t'ai demandé de lire un texte, il est venu tout de suite à toi. Qu'est-ce qui représente aussi, surtout l'extrait que tu viens de nous lire?
Un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est que le point de départ de la conversation, en fait, c'était un texte de Samuel R. Delany qu'on a publié en Chabook, dont on a traduit un extrait avec Barbara Siriex, qui s'appelle « Times Square Red, Times Square Blue », où en fait, il parle du cruising autour des espaces de cruising essentiellement pour mecs, qui mélangeaient plutôt hétéros et PD d'ailleurs, qui sont devenus des cinémas porno plutôt pour des PD mais qui n'étaient pas forcément out. Et dedans, il y a l'utopie d'un renversement. Il parle lui-même de pourquoi il n'y aurait pas des espaces qui seraient dirigés par et pour des femmes. Et que ça aurait probablement une influence sur le harcèlement de rue. Donc ça, on trouvait ça super intéressant. Et on découvre ce texte aussi juste au sortir du Covid. C'était notre première résidence à Trégnac quand on sortait du Covid, que tout le monde était tout le temps sur Internet, sur des applis, machin et tout. Lui, il défonce l'idée de réseau, il défonce l'idée d'application de rencontre, machin et tout ça. Et il est vraiment dans qu'est-ce que sont les relations contact. Et pour lui, les espaces de cruising permettaient ça. Donc ça a aussi permis une certaine sociabilité qui s'est développée entre mecs que nous, en tant que lesbienne, ou en tant que femme même, tout simplement, on n'a jamais pu vraiment nommer, développer, expérimenter.
C'est assez drôle parce que dans le livre, moi, quand j'ai reçu les textes et que j'ai tout découvert, tout lu pour la première fois, je me suis rendu compte qu'en fait, ces espaces-là, il y avait un kink bibliophile chez Les Guides. En fait, il y a plusieurs textes où il y a des scènes de fantasmes de ouf, parce que c'est quand même assez porno, qui se déroulent dans des bibliothèques. Et je me suis dit, mais c'est fou, parce que moi, j'avoue que personnellement, ça me fait grave kinky les bibliothèques, mais je pensais que j'étais une petite Gwyn isolée avec ce fantasme. En fait, pas du tout. Je me suis rendu compte que c'était un espace commun et c'est intéressant de voir que justement si on cherche là avec l'extrait que tu viens de lire de Félix et de ce que tu expliques ça c'est dans la bibliothèque que ça peut avoir lieu par exemple ou une librairie je sais pas mais c'était drôle voilà ce point commun
c'est vrai ouais
par inadvertance un peu mais qui est peut-être un vrai kink de Gwyn bibliophile quoi.
Et puis dans ce projet-là, les ateliers sont amorcés, réalisés à l'occasion d'invitation ou à votre initiative, mais ça peut se passer dans différents lieux, les appartements de chacun, chacune, les squats, les docks aussi. Et en même temps, vous me disiez que les gens viennent et enfin ils sont pas obligés de rester d'une certaine manière, ils peuvent aussi partir. Donc il y a tout un mouvement comme ça, de la même manière que la revue ne fait jamais le même format, n'a jamais les mêmes papiers, ni la conception graphique est aussi différente. Donc ça, c'est une volonté aussi de rester toujours en mouvement, de ne pas figer la revue dans un espace, dans un temps déterminé, quoi.
Je dirais qu'il y a une volonté de rester ouverte. Et d'accueillir en fait des personnes qui ont envie de se lancer et d'échanger, parce qu'il y a peu d'espaces de recherche collective qui permettent ça aujourd'hui, je pense, pour des personnes qui justement ont une entrée dans l'écriture qui n'est pas forcément directement littéraire, genre je veux écrire des livres, je veux écrire des poèmes, je veux écrire des romans, voilà. Donc c'est ces espaces de recherche là, je pense qu'ils sont exigeants. Et c'était ça le désir, et ça l'est toujours. Par contre, c'est vrai, on se pose la question aussi à l'intérieur du collectif de comment... parce que ce flux, c'est bien, mais il faut avoir la capacité de le gérer aussi. On attend un minimum des personnes quand même qui viennent à l'intérieur du collectif. Les auteurices qui sont publiées dans la revue notamment, on demande en fait une part de bénévolat, puisqu'on est toutes, on en est toutes au même endroit, on est toutes assez précaires. Et donc c'est un peu le deal qui est passé, c'est ok, bah, pas de problème, on publie ton texte. Par exemple pour les chapbooks, c'est les auteuristes en duo avec quelqu'un qui font... On se met par duo en fait pour créer cet exemplaire. Donc c'est l'auteuriste en question qui va driver, mais qui va aussi participer, qui va faire les agrafes et tout ça. Enfin voilà, personne ne travaille au service, bénévolement au service de d'autres personnes. On ne voulait pas faire ça en fait.
Mais à terme, là, vous aimeriez que tout le monde puisse être rémunéré.
Bah oui, bien sûr. Oui, voilà, c'est
non,
ça.
On en parlait hier, justement, enfin, que c'était ce désir-là aussi. Par exemple, vous recevez des aides aussi pour ces publications, mais que ça couvre pas non plus tous les frais de la publication, que ça arrive à un moment dans la publication.
Mais je pense que la rémunération, en plus, ça peut donner une autre forme au projet. C'est pas simplement l'idée d'être payé pour ce qu'on fait, c'est comment tendre vers une forme d'autonomie là-dedans, et comment ça va redimensionner en fait, je pense, les livres qu'on fait, ou même d'autres types d'objets. Je pense qu'il y a une diversité de pratiques à l'intérieur de How to Become. Mélanie, tu fais aussi du dessin, moi je fais de la poterie, je fais aussi des super compotes. On pourrait faire des super paniers avec des livres. Là, tu vois, on a une cassette, un chapbook, un dessin, une photo. Enfin voilà, moi je trouve que le modèle des AMAP en agriculture est hyper inspirant pour les artistes en fait qui sont dans du protéiforme. Et qui sont déjà en fait en dehors de l'économie dominante en fait, qui isole en fait les pratiques. En réalité, les pratiques restent assez bien différenciées au moment des subventions.
Martha, tu avais apporté un livre, tu veux nous en parler? Il nous reste très peu de temps, mais on peut dire un petit mot.
Ouais, c'est parce que oui, hier tu nous disais d'amener des livres, mais ça m'a beaucoup séduit.
Mais du coup, je suis curieuse de savoir ce que c'est.
C'est un livre, c'est drôle parce que tu disais, apportez vos inspirations graphiques ou autres, et je pense qu'on peut s'attendre à tout un tas de choses qu'on trouve ici, donc il y en a aussi, évidemment. Je contextualise, ici on est à Offprint. C'est des choses très anciennes qui m'inspirent le plus aussi. Et là, c'est pour ce numéro en particulier, c'est cette année, j'ai été à Florence et j'ai découvert des manuscrits siennois de Chancoro enluminés. Je les ai vus en vrai, ça m'a complètement déglingué les yeux, j'ai trouvé ça fascinant. Et donc pour décrire un peu ce livre du coup catalogue, les enluminures et particulièrement les lettrines. Donc les lettrines, c'est quand la première lettre d'un mot est particulièrement plus travaillée et du coup marque le début d'un paragraphe. Et donc là, ces lettrines de ces manuscrits sont totalement exubérantes. Enfin, non seulement on a le dessin de la lettre qui est très bien fait, c'est aussi polychrome. On a des figures qui ne sont pas nécessairement religieuses pour une fois à l'intérieur, alors que c'est des chants coraux de la cathédrale de Sienne. Voilà, c'est un travail, enfin là l'échelle, c'est un travail d'enluminure absolument dingue. Donc voilà, ça fait partie des choses qui ont inspiré la composition des mises en page et puis aussi la présence de la typo dans le livre. Il y a du doré dans le livre, ça scintille.
Donc ça, ça vient de la manuscrite.
Oui, bah c'est bah, pour les ouais pour
sur la couverture.
Pour les dessins à l'intérieur, j'ai été prélevée en fait dans plein de dans un livre en particulier qui s'appelle L'Hypnerotomaca polyphilique, qui est un très vieux livre imprimé à la Renaissance à Venise. Et aussi maintenant des tableaux de la Renaissance et du Moyen-Âge, et j'ai été prélevée des petits éléments un peu périphériques qu'on va pas forcément prêter attention à eux de prime abord. Et alors qu'ils sont très intéressants. Donc, et je les voilà, j'ai pris des notes comme ça, j'en ai redessiné plein. Et c'est comme ça aussi qu'est né le cœur de la quatrième de couve, qui était un peu le fruit de, enfin, une sorte de syncrétisme de tout ce travail. Et là, voilà, une espèce de freestyle à l'issue de tous ces travaux de dessin, de recherche à force de dessiner des damiers, en fait.
Voilà. On va finir sur le titre quand même, revenir. How to become, ça sonne un peu comme un guide ou un peu un mode d'emploi à quelque chose. C'était l'idée de rassembler ces textes, des facsimilés, des traductions, des images. Est-ce qu'il y avait ce désir-là justement d'apporter une matière soit à réfléchir, soit à rassembler aussi une communauté ou... Voilà, un peu parler d'une communauté qui est invisible d'une certaine manière, enfin, ou rendre visible invisible, je sais pas.
Mais je pense que le roman d'initiation, en fait, est souvent là, à plein d'endroits, dans les références. Et How to Become the Daughters of Darkness. The Daughters of Darkness, c'est le titre d'un film de vampire avec Delphine Seyrig, qui est génial. Mais oui, ce titre-là, on le reprend et ça nous fait marrer de le décliner à chaque fois. Mais je pense que l'idée de la pédagogie, en fait, des devenirs, elle était présente dès le départ et elle perdure à l'intérieur des ateliers d'écriture, en fait. Voilà.
C'était toi, Mélanie ?
Ah oui, ouais. Pareil, j'ai ramené un livre, mais c'est un livre de deux livres de René Gladman. C'est un personnage qui déambule, c'est un peu science-fiction, c'est un personnage qui déambule dans la ville, voilà.
Okay. Mais je l'ai lu plusieurs fois. Inspiré.
Entre le 6 et le 4.
Ok.
Ouais, voilà, quelque chose comme ça.
Merci Sabrina, Soyez, Martha, Salim Beni et Mélanie Blaison.